Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La sainteté, pour beaucoup, même parmi les chrétiens, le mot peut faire peur. On imagine en effet tout de suite des vies héroïques passées au feu de grandes épreuves, à en oublier qu'il ne s'agit là que d'amour. Si loin, mais si proche, semble répondre à nos pensées le pape François dans Gaudete et Exultate, son exhortation apostolique sur, je cite, « l'appel à la sainteté dans le monde actuel », un petit guide simple d'un maître de sagesse. Gaudete et Exultate, première, une autre série d'émissions, comme on avait parcouru l'année dernière, Laudato aussi, on va parcourir cette autre exhortation apostolique. On va prendre le temps et on commence avec vous, frère Gilles Danroc. Vous êtes dominicain, prêtre et enseignant en théologie à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales de l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour, Emmanuel.
Merci d'être avec nous ce matin. On va parcourir donc ce beau texte, ce texte qui, il faut le dire, n'est pas très long, hein, on peut presque le mettre dans sa poche si on trouve le bon format, et on peut le lire et le relire tant il est écrit de manière pédagogique. On y reviendra d'ailleurs, le pape François qui lui-même dans son introduction dit que mon objectif est humble, je veux essayer de faire un livre à la portée de tous, laisse-t-il presque entendre. Des textes, il y en a eu beaucoup qui ont été publiés, enfin quelques-uns qui ont été publiés par le pape François, Evangelii Gaudium, il y a eu donc Laudato aussi, cette fois c'est une encyclique, Gaudete et Exultate, Amoris Laetitia, pardon, avant, est-ce qu'on peut trouver un fil rouge à toutes ces... Il y a beaucoup de joie à chaque fois, non?
Ah ben, c'est le sens du mot joie décliné en latin entre Gaudium. C'est déjà dans le Concile Vatican II, Gaudium et Spes, hein, les joies et les espérances de l'humanité. Et puis, Laetitia, c'est un peu l'allégresse. Et donc, le titre de notre document à travailler toute cette année, c'est « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse », directement une citation de la fin des béatitudes dans l'évangile de saint Matthieu.
Gaudete et exultate,
Gaudete,
ça veut dire Gaudete, pardon.
Ben, réjouissez-vous,
hein, exultez.
Et exultez, et ou soyez dans l'allégresse. Je préfère presque. Soyez en français, c'est soyez dans l'allégresse.
Une ou deux questions avant qu'on se plonge dans ce texte. J'avoue, moi ayant moins, on va dire, d'expérience ou d'années et de nombreuses lectures que vous de textes du magistère, on a l'impression que c'est, enfin, pour un texte qui vient de tout en haut, j'ai envie de dire, c'est d'une grande simplicité. Est-ce que ça vous a aussi surpris?
Non pas surpris du pape François, parce que justement nous commençons à être habitués, et d'ailleurs le dernier texte, Christus vivit, pour les jeunes, est aussi de la même veine, hein. Le Christ est ressuscité, il est vivant, et je pense que tous les auditeurs, je les invite à la joie, en même temps que notre pape, c'est-à-dire ne pas avoir un regard pessimiste, morose, râleur, à la française, sur ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église et dans le monde, et dans l'Église pour le monde, mais au contraire d'avoir une visée, d'abord un regard posé sur le Christ ressuscité qui nous attend, qui nous attire à lui, qui est avec nous et qui transforme notre vie par sa présence ressuscitée. Hein. Et d'ailleurs, il a été noté, en particulier par des philosophes, combien le christianisme échoue quand il verse dans la tristesse, dans l'amorosité, dans le conformisme, dans la morale. Au lieu de regarder toujours l'aspect pessimiste du monde, eh bien, la résurrection, c'est une recréation du monde dans le Christ. Voilà. Donc, je peux dire aussi que à partir du numéro 10 de ce texte,
le paragraphe 10,
le pape tutoie notre auditeur là qui nous écoute en ce moment, Vous et moi, nous sommes tutoyés par le pape dans un discours de proximité, dans un discours de simplicité, où il nous invite simplement à la simplicité de la joie évangélique.
Voilà, le pape François qui dit la chose suivante, cet appel qu'il t'adresse à toi aussi, parlant de Dieu. Frère Gilles...
appelle... Toi.
Frère Gilles d'Enroc, la sainteté, pourquoi tout d'un coup un texte sur la sainteté? Vous me direz, il fait ce qu'il veut, le pape François, mais était-ce nécessaire aujourd'hui? Est-ce à dire que traîne dans notre esprit des fausses images, des fausses représentations à la sainteté, ou qu'au contraire, il considérait que le peuple de Dieu s'était un peu, on va dire, fatigué ou avachi dans son désert? Quelle lecture vous en faites? Pourquoi ce texte tout d'un coup?
Écoutez, j'ai parlé de morosité, de tristesse. C'est quand même une caractéristique. Depuis les 30 Glorieuses, par exemple, de la tonalité des éditoriaux de journalistes tous les matins. Voilà. Et je pense que nous comprenons toujours comme en crise. Il y a aujourd'hui quelque chose qui est très frappant dans les pays riches, c'est le contraste entre leur richesse et leur tristesse, d'un côté, et quand on sort d'Europe ou des États-Unis ou des pays émergents même, on constate que la pauvreté rend joyeux. C'est-à-dire, on est content de vous saluer, bienvenue en Afrique, en Haïti, enfin dans toutes sortes de pays. Et chaque fois que je rentre de ces pays et que j'arrive à Roissy, et ben, je me dis, tiens, je suis rentré en France, ça commence à râler, déjà, dès les bagages à chercher, voilà. Donc, je pense que, effectivement, cette morosité ambiante, issue, il faut le dire, de deux guerres mondiales, de la menace atomique, des crises ici et là, et au Proche-Orient, dans le propre pays de Jésus, il y a donc une espèce de contamination de tristesse dans l'Église aussi. Et c'est, je crois, un texte qui est nécessaire. Mais plus profondément, ce texte est le prolongement du chapitre 5e, du grand texte sur l'Église du Concile Vatican II, Lumen Gentium, lumière des nations. Le chapitre 5, c'est le cœur de ce texte, tous appelés à la sainteté. Et ce texte permet de comprendre tout ce qui y conduit et toutes les conséquences de cet appel.
Alors, si vous voulez bien, on va rentrer dans le texte. Le pape François vous a entendu. « Soyez dans la joie et l'allégresse », Matthieu 5, 12 commence le texte, « dit Jésus à ceux qui sont persécutés ou humiliés à cause de lui ». Dès les premières pages de la Bible, il y a sous diverses formes l'appel à la sainteté, dit le pape François, et il dit dans cette courte introduction avant d'entrer dans le premier chapitre, « Mon objectif est humble, c'est de faire résonner une fois de plus l'appel à la sainteté en essayant de l'insérer dans le contexte actuel ». La sainteté, le texte va travailler à définir ce qu'est la sainteté, à repréciser, à, on va dire, essayer de décaper les fausses idées qu'on se fait de la sainteté. Néanmoins, j'ai noté dans le paragraphe 30 qu'il y a d'une certaine manière deux dimensions, comme deux bras de la sainteté, le service des autres et l'évangélisation. Est-ce là, on va dire, le fond de l'appel à la sainteté? Deux grands services, travailler à donner du sens peut-être à la vie des hommes et puis travailler à les aimer en proximité.
Alors, le pape François est tout à fait à juste titre, selon la grande tradition, vous avez rappelé la Bible, mais aussi la tradition des pères et du Moyen-Âge, enfin la tradition de l'Église, il ne faut pas séparer contemplation et action. Penser, connaître Dieu et aimer Dieu. Connaître et aimer, c'est tout un, d'une certaine manière, même s'il faut prendre les voies de l'un et de l'autre pour essayer de rendre compte foi et raison, si vous voulez. Donc la question de la mission que vous avez décrite, qui est ce paragraphe 30 de notre texte, eh bien c'est le lien entre être saint et être en mission. On ne peut pas être en mission si on n'est pas saint, c'est-à-dire appelé à la sainteté, et on ne peut pas être saint dans sa reclus, dans sa chambre, ou comme il le dit quelque part, sur son canapé, ou bien, oui, dans un monde virtuel. Là, il y a une grande critique de notre monde. On peut être, vivre de façon quasi virtuelle. Mais surtout, voilà, le saint est en acte d'être saint, en développement d'être saint, en dynamique de sainteté, tout au long de sa vie. Il n'est pas saint parce qu'il aurait fait, à l'instant T, de l'âge A, un acte merveilleux ou miraculeux. Par exemple, Sainte Bernadette de Lourdes, donnons des exemples. Sainte Bernadette de Lourdes, elle n'est pas sainte parce qu'elle a eu des visions 18 visions dans une grotte au bord d'un gave. Elle est sainte parce que toute sa vie, elle est devenue attentive aux plus petits, au nom de ce qu'elle avait reçu, au nom de l'accompagnement de Marie qui lui a permis de préparer sa première communion pour être au service de l'Église et des plus petits.
Alors vous disiez tout à l'heure que le pape François adresse cet appel à tous. Je voudrais rappeler par la présente exhortation que l'appel à la sainteté que le Seigneur adresse à chacun d'entre nous, cet appel, il te l'adresse à toi. Il y a un autre passage qui dit cet appel à tous, je le citais ce matin dans le teasing de l'émission. J'aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu, chez ses parents qui éduquent avec tant d'amour leurs enfants, chez ses hommes et ses femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, chez les religieuses âgées, et qui continuent de sourire. Et un petit peu plus loin, le pape François a deux expressions, la sainteté de la porte d'à côté ou la classe moyenne de la sainteté. Voilà, c'est des expressions qui sont parlantes. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et puis un petit peu d'où ça vient cette espèce de sainteté, sainteté pour tous, sainteté populaire?
Alors justement, ça vient de quelque chose qui est assez mal compris, on le voit à l'occasion par exemple du synode sur l'Amazonie, c'est la théologie de la libération qui est une théologie du peuple de Dieu, du peuple de Dieu. Ce n'est pas une théologie du peuple tout court. C'est-à-dire une sorte de regard sociologique, qu'est-ce qu'un peuple, comment l'administrer, comment le gouverner, vers où il va, que doit faire le gouvernement, que doivent faire les corps intermédiaires ou toute autre action politique. Le peuple de Dieu, c'est ce qui est décrit par saint Paul, par exemple, dans l'Épître aux Éphésiens, c'est le peuple nouveau que le Christ s'est acquis sur la croix, quand il a abattu le mur de la haine par son amour qui est allé jusqu'au bout. C'est-à-dire, c'est autre chose qu'un peuple qui se regarde lui-même et qui s'estime supérieur aux autres.
Mais ça vient aussi donc d'Amérique latine, non?
Alors oui, ça vient d'Amérique latine.
Cette théologie du peuple.
Fondamentalement, ça vient encore une fois de Lumen Gentium, Lumière des Nations, ce décret sur l'Église du Concile Vatican II, qui commence par définir l'Église pour la première fois de son histoire. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas vécu auparavant, mais c'est défini comme peuple de Dieu, corps du Christ, temple de l'Esprit, c'est-à-dire dans la vie même, dans la vie même de la Sainte Trinité. Et le peuple de Dieu, c'est le peuple du Père, que le Christ s'est acquis. Corps du Christ, on comprend, temple de l'Esprit, on comprend. Et donc, c'est un peuple nouveau tiré des peuples sociologiques du monde entier. Le peuple d'Israël, les peuples païens, etc. Le peuple de France, le peuple du Brésil, le peuple de l'Allemagne, etc. etc. Tous les peuples de ces peuples.
Est-ce qu'il ne faut pas y rajouter aussi donc, une pastorale populaire? J'ai lu que le pape François
Exactement.
Était familier de cette pastorale populaire. C'est-à-dire les pauvres sont un lieu théologique, ai-je lu, en tant que victimes des injustices, leur souffrance révèle le péché de la société par eux, qu'il aime d'un amour préférentiel. De quoi est nourri le pape François aussi nous proposant cette réflexion qui remet les choses à l'endroit?
Et justement, il s'est battu au sein de l'Amérique latine comme supérieur des jésuites et puis comme archevêque de Buenos Aires. Il s'est battu pour que la théologie du peuple de Dieu soit sauvée des théologies plus ou moins marxistes qui parlaient d'un peuple prolétarien. un peuple qui était conçu dans des normes politiques. Là, c'est une norme spirituelle. C'est le peuple, on pourrait le dire autrement, des baptisés tels que. À ras, j'allais dire, du baptême. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une élite chrétienne ou d'une élite intellectuelle ou d'une élite organisationnelle. Il s'agit du peuple des baptisés tels que. Baptisés dans l'Esprit Saint, on vit à partir de là où on vit.
D'où l'expression classe moyenne de la sainteté.
C'est... Oui, ça c'est de Malègue. Enfin, c'est une citation qu'il fait.
Un auteur français, oui.
Mais en même temps, je crois qu'il a conscience que là, ce qu'on a mal traduit par l'option préférentielle pour les pauvres à Puebla, qu'il faudrait traduire en français par choix prioritaire des pauvres, fait partie du baptême. C'est au centre du baptême, c'est-à-dire dès qu'on est baptisé, on sort de la vision autoréférentielle du monde clos sur lui-même et qui vit par lui-même, et on a le regard dirigé avec amour en direction du pauvre. Donc, le peuple à partir aussi de ses bases.
Paragraphe 19. Pour un chrétien, il n'est pas possible de penser à sa propre mission sur terre sans la concevoir comme un chemin de sainteté, car voici quelle est la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Chaque saint est une mission, il est un projet du Père pour refléter et incarner en un moment déterminé de l'histoire un aspect de l'évangile. On va faire une courte pause et puis on va retrouver frère Gilles Lanroc pour parcourir ce beau texte Gaudete et Exultate.
Présence. Emmanuel Pella.
Gaudete et exultate, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, où en français, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Donc ce beau texte, cette exhortation apostolique du pape François qu'on a décidé de prendre pour la parcourir tout au long de l'année, comme on l'a fait l'année dernière avec Laudato aussi. Et j'ai cru comprendre que les auditeurs avaient apprécié. Donc on s'essaye à nouveau à parcourir un texte du pape François, à prendre le temps ce matin. Pour rappel, nous sommes avec le frère Gilles Danroc, qui donc est dominicain, prêtre et enseignant en théologie à l'Institut catholique de Toulouse, plus particulièrement à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales. Toutes ces présentations faites, on continue à avancer dans le texte, donc on parcourt le chapitre 1. J'aimerais qu'on revienne, frère Gilles Danroc, sur cette sainteté d'en bas. À lire le pape François, la sainteté tout d'un coup devient, on va dire, facile, accessible. Il donne même des exemples, je vous laisserai faire. Il parle de la maman fatiguée qui persévère à aimer ses enfants. Dans le paragraphe 16, il dit la chose suivante: « Cette sainteté à laquelle le Seigneur t'appelle grandira par des petits gestes. » Et là, justement, il prend un exemple. Une dame va au marché pour faire des achats, elle rencontre une voisine et commence à parler, et les critiques arrivent, mais cette femme se dit en elle-même « Non, je ne dirai pas du mal, je ne dirai du mal de personne, voilà un pas dans la sainteté. » C'est presque la sainteté à portée de main, en fait.
Oui, c'est-à-dire le contraste, puisque nous sommes au chapitre 1er, donc au tout début, numéro 16, c'est le contraste entre la sainteté du peuple de Dieu dont nous avons parlé, la sainteté des baptisés, et le modèle standard de la sainteté dont nous héritons jusqu'au XXe siècle, jusqu'au dernier Concile Vatican II, une sainteté des martyrs d'abord, une sainteté des docteurs de l'Église, une sainteté des mystiques qui avaient des phénomènes extraordinaires, et tout cela, des apparitions, des visions, toutes sortes de choses, qui mettaient la sainteté d'un côté inaccessible aux baptisés, aux simples baptisés. Et le pape François renverse la perspective de la sainteté. La sainteté n'est pas pour quelques-uns, qui seraient des modèles éclatants, mais la sainteté, elle est pour tous, même si les saints canonisés sont des poteaux indicateurs du chemin de la sainteté.
Parce qu'il rappelle quand même, c'est dans le paragraphe 5, que dans les cas de béatification ou de canonisation, il y a quand même des choses tangibles sur lesquelles l'Église se penche, les signes d'héroïcité dans l'exercice des vertus, le don de soi jusqu'au martyr, le don de sa propre vie aux autres, y compris jusqu'à la mort.
Oui, mais par exemple le martyr, on peut très bien voir exalté, comme fait Polyeuc, par exemple, un héros qui est plus brave que la mort, qui va affronter des ennemis. Non, le martyr, c'est en dernier recours. Il doit se cacher. Et si il doit, in fine, devant un tribunal ou devant un peloton d'exécution, dire sa foi, il dit sa foi. Mais surtout, il y a plusieurs façons d'être martyr. Je crois que aussi les canonisations, dont le pape François disait à un journaliste qu'il était un accélérateur de canonisation, parce qu'il a justement canonisé beaucoup de gens très simples, la canonisation... Et la façon dont l'Église discerne le travail de l'Esprit-Saint. Et après les martyrs de la foi, on peut parler aujourd'hui, et de plus en plus, de témoins de la charité. C'est-à-dire, on a non plus une opposition frontale à l'Empire romain, à César qui demande un culte, mais l'enjeu moderne, c'est la présence auprès des plus petits que le monde rejette au nom de la charité. Et ceci, c'est un martyr quotidien, c'est une endurance quotidienne. Comme cette maman que vous citez, qui est réveillée par les pleurs de son enfant, qui accepte dans le quotidien à aimer par-dessus ses fatigues, à travers ses crises. Et on peut continuer le paragraphe 16. Hein. « Non, je ne dirai du mal de personne, dit cette dame au marché. un pas dans la sainteté. Ensuite, à la maison, son enfant a besoin de parler de ses rêves. Et bien qu'elle soit fatiguée, elle s'assoit à côté de lui et l'écoute avec patience et affection. Patience, affection. Voilà une autre offrande qui sanctifie. Ensuite, elle connaît un moment d'angoisse, mais elle se souvient de l'amour de la Vierge Marie, prend le chapelet et prie avec foi. Voilà une autre voie de sainteté. Elle sort après dans la rue, rencontre un pauvre et s'arrête pour échanger avec lui avec affection. Voilà un autre pas. Elle n'a pas dit, elle lui a donné une pièce. Elle échange avec lui avec affection.
Il y a un autre passage sur lequel je voudrais venir. C'est le paragraphe 8. « Laissons-nous encourager par les signes de sainteté que le Seigneur nous offre à travers les membres les plus humbles de ce peuple », dit le pape François. Et puis après, il évoque, on va dire, les grandes figures de sainteté et grands mystiques. Mais il dit aussi la chose suivante. « Le courant de la vie mystique façonne des âmes, alors là je le cite à ma manière, qui restent en grande partie invisibles. Certaines âmes dont aucun livre ne fait mention ont une influence déterminante au tournant décisif de l'histoire universelle. » On a l'impression qu'il nous demande d'abord de prendre en exemple justement non pas ceux qu'on nous présente forcément sur les autels et qui paraissent inaccessibles, mais même presque les plus petits, les plus cachés.
Ben, écoutez, nous sommes à Toulouse ou dans le Midi. Regardez Sainte Bernadette. Aujourd'hui, des millions de pèlerins vont à Lourdes chaque année, alors que c'est une petite jeune fille qui a eu un début de vie heureuse dans une très belle famille, et puis ensuite qui a connu la pauvreté, la misère, la difficulté à faire sa première communion, et qui a été aidée par la Vierge Marie. Regardez que toutes les apparitions reconnues par l'Église s'adressent à des enfants pauvres et simples, que ce soit à la Salette, que ce soit à Notre-Dame de Guadeloupe, des bergers, voilà, donc des enfants, parce que la vie mystique est donnée depuis le baptême, c'est vivre dans l'Esprit Saint finalement, et là, les saints, à commencer par la Vierge Marie, nous accompagnent sur un chemin que le nouveau peuple de Dieu va vers le royaume, prend pour aller vers le royaume. Donc c'est tout cela. Et les critères de la canonisation et de la béatification sont quelque part simplifiés parce qu'il y a une mutation du témoignage de la vie chrétienne au cours des siècles. Et c'est l'Esprit Saint qui façonne les saints. Et c'est donc le critère décisif, et l'Esprit Saint accomplit en nous l'évangile du Christ, notre conformité au Christ, notre amour de communion avec le Christ.
Il y a autre chose dans le texte, donc cette fois je passe au paragraphe 22, pour reconnaître que, le pape François laisse entendre qu'il ne faut pas s'arrêter aux détails, je vais vous laisser citer, mais qu'en fait il faut considérer la vie dans son ensemble, laissant entendre que la sainteté c'est pas, on va dire, le moment A, le moment B plus le moment C, et qu'il n'y a pas à matière aussi à se décourager, que les saints ne sont pas parfaits, tout ce que dit un saint n'est pas forcément fidèle à l'évangile, tout ce qu'il fait n'est pas nécessairement authentique et parfait, ce qu'il faut considérer c'est l'ensemble de sa vie. Rien de nouveau sous le soleil, c'est la grande tradition de l'Église que de dire ça.
Ben écoutez, je crois, le départ de tout cela, c'est que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et pendant, les plus grands théologiens ont pu comprendre qu'il y a une différence entre l'image et la ressemblance, alors que souvent on dit que c'est un peu la même chose, ce qu'on appelle une redondance. Alors que l'image, c'est ce qui nous est donné. La ressemblance, c'est la dynamique de toute notre vie pour ressembler de plus en plus au Christ, de ressembler de plus en plus à la sainteté de Dieu incarnée en Jésus-Christ, c'est-à-dire où la sainteté de Dieu se laisse lire à regard d'homme, d'homme à homme, dans une sorte d'égalité voulue par Dieu, et qui est une égalité de grâce. Or, la grâce...
On est créé à l'image et il faut travailler à devenir à la ressemblance, c'est ça?
Voilà. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit saint Irénée au tout début, justement celui qui est le grand théologien contre le gnosticisme, c'est le chapitre 2, le néo-gnosticisme de notre époque, c'est-à-dire penser Dieu sans Dieu, penser Dieu à partir de l'homme.
Il y a un autre passage sur lequel j'aimerais revenir, je ne le retrouve plus mais vous l'aurez peut-être en tête. Le pape François aussi élargit son propos au début du texte en disant que la sainteté, dans le fond, ça concerne tout homme. Il laisse entendre que ça concerne tous les chrétiens. Il parle de cet œcuménisme du sang dont il a déjà parlé en multiples reprises, hein, laissant entendre tous les chrétiens qui, de par le monde, quelle que soit leur confession, donnent leur vie en essayant de suivre le Christ. Mais aussi, il parle de ceux qui ne sont pas chrétiens. Voilà, le peuple de Dieu, ça n'est pas que celui qu'on appelle comme tel. Expliquez-nous.
Ben, la réponse, vous l'aurez dans le commentaire du chapitre 3e sur les béatitudes et sur ce qu'on appelle le jugement dernier. Assez vite, entre nous, on parle de Matthieu 25. J'étais prisonnier et tu m'as visité, j'étais affamé et tu m'as donné à manger. Ou la chanson de Brassens, hein, « Toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné un bout de pain ». Voilà. Et c'est un peu dans ce sens qu'il y a une sorte de surprise dans ce texte relatant la fin des temps, avec cette parabole des vierges sages, avec les talents, avec tout ça. À la fin des temps, finalement, eh bien, des inconnus, des anonymes, vont découvrir que quand ils ont aimé en vérité, de façon inconditionnelle, sans vouloir en tirer un bénéfice, en visitant un prisonnier, en secourant un SDF, etc., etc., eh bien, c'est Dieu lui-même qu'ils ont rencontré. Et ça, c'est un élément qui nous dépasse. Il faut qu'il y ait la révélation de l'Évangile sur l'humanité dans son ensemble, dans son histoire, jusqu'à la fin des temps. C'est ce mystère de l'amour.
Et qui nous réjouit, pour reprendre le texte.
Exactement.
Le paragraphe, c'est le paragraphe 9, la sainteté, le plus beau visage de l'Église.
Ah oui.
Mais même en dehors de l'Église catholique et dans des milieux très différents, dit le pape, l'Esprit suscite des signes de sa présence qui aident les disciples même du Christ. Laissant entendre que voilà, les disciples du Christ n'ont pas toujours ceux qu'on croit.
En d'autres termes, ça veut dire que l'Église ne peut pas museler ou encager l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est libre. Encore une fois, je me permets de citer saint Irénée, l'Esprit Saint, nous savons où il est dans l'Église, c'est sûr. Mais nous ne savons pas où il n'est pas. Il est en ce moment en train de travailler en Mongolie, au pôle Sud, je ne sais pas où. Ce n'est pas à nous de lui dire ce qu'il doit faire. C'est au contraire à nous d'entendre ce qu'il veut que nous fassions.
Au paragraphe 6, le pape François dit aussi la chose suivante. Personne n'est sauvé seul en tant qu'individu isolé, mais Dieu nous attire en prenant en compte la trame complexe des relations interpersonnelles qui s'établissent dans la communauté humaine. Et il ajoute, Dieu a voulu entrer dans une dynamique populaire, dans la dynamique du peuple. Est-ce que vous pouvez insister? Ça veut dire quoi, personne ne se sauve seul?
D'abord le Christ. Il nous a sauvés sur la croix, il nous sauve et nous offre la grâce du salut à travers l'Église, mais par le travail de l'Esprit Saint, qui est Dieu lui-même, et c'est ce que nous disions du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est un peuple où, si on regarde aussi, un baptisé, c'est une personne, c'est pas un individu. C'est une personne au sens où elle est reliée. C'est pour cela que l'Église maintient le baptême des petits-enfants. C'est que, au-delà de la volonté individuelle de quelqu'un, eh bien, il est relié par ses parents, par le temps dans lequel il vit, le lieu dans lequel il est né. Il est lié à un ensemble qui s'appelle le peuple de Dieu. Et c'est ce peuple de Dieu qui grandit, qui est fécond. Et donc le baptême est essentiel pour comprendre cette dimension de la grâce donnée toujours gratuitement et de façon inconditionnel, l'amour de Dieu est répandu dans le monde. Et en ce sens, le baptisé n'est pas seul. Il a des parents, il a un parrain, une marraine, il est dans une communauté, etc. Donc notre vie chrétienne, c'est une vie qui ne peut pas être une vie d'isolée. On peut choisir, l'ermite peut choisir, comme Saint Gilles du Gard, il est ermite au fin fond de la forêt dans la région de Nîmes. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il est là, selon l'adage du Moyen-Âge, solitaire, solidaire. C'est-à-dire que sa vie de solitude n'est pas une vie d'isolement, mais une vie de prière pour le salut, en particulier de ceux qui souffrent le plus.
Et en l'occurrence, c'est sûrement un appel aussi qui a été largement discerné, cette manière un peu isolée de le vivre. Pour finir, j'aimerais que vous reveniez juste sur cette phrase. Dieu a voulu entrer dans une dynamique populaire. C'est ce qui frappe un petit peu à la lecture de cette exhortation apostolique. En tout cas, moi, ce qui m'a frappé, et puis dans ce premier chapitre, on se dit, Dieu est fou quand même. Il a voulu quelque part être, je le dis avec mes mots, mais on peut le dire comme ça, Dieu a voulu rentrer dans une dynamique populaire, il a donné son pouvoir ou quelque part à ce peuple qu'il s'est choisi.
Ben ça, si on prend la théologie du peuple de Dieu au-delà, bien au-delà de la sociologie politique du peuple de Dieu ou économique, du regard économique du peuple tout court, là, on est dans une dimension profondément croyante, spirituelle. C'est dans la foi et dans l'Église que nous comprenons que l'Église est le peuple nouveau, le peuple de Dieu. Et un peuple, c'est une dynamique. Nous sommes pèlerinage vers le royaume. Et tout l'Ancien Testament nous a déjà donné ce sens de l'histoire. L'histoire sainte depuis Abraham, l'appel d'Abraham et des patriarches, etc. Et ce peuple est en train de croître pour devenir aussi nombreux que les étoiles du ciel et les grains de sable au bord de la mer. Donc on a cette dimension à la fois collective et personnelle dans l'appel d'Abraham, dans l'appel que le Christ fait pour acquérir sur la croix, je recite l'épître aux Éphésiens au chapitre 2e, sur la croix, par le sang de la croix, il a fait la paix, il a abattu le mur de la haine et il constitue un peuple nouveau. Donc de la croix coule la grâce dans la lumière de la résurrection et de la victoire sur le mal. Ce sera d'ailleurs la fin de l'exhortation. Il faut lutter par tous les moyens, c'est un combat spirituel, il faut lutter contre le diable. Il va dire, c'est pas une entité intellectuelle, c'est une réalité d'un combat que nous avons à mener. Donc on ne peut pas s'endormir sur les lauriers de notre baptême ou d'une sainteté a priori.
Voilà, et derrière ce peuple, il y a donc le pape François qui lance par ce texte Gaudete et exultate, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Voilà, un immense encouragement à ce que ce peuple continue d'avancer et de marcher dans la joie et dans l'exultation. On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour essayer de décortiquer avec vous ce qui nous attend à la lecture de cette exhortation, puisque le pape François, vous me le disiez, souvent dans ses textes, a une construction en arc-en-ciel. Alors on va découvrir ça.
Plaisance, à Saint-Gaudens, 94.1.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Gaudete et exultate, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. C'est pour rappel donc l'exhortation apostolique du pape François que nous commençons à parcourir ce matin avec comme premier invité de cette série annuelle des premiers mercredis de chaque mois, le frère Gilles Denroc, dominicain, prêtre et enseignant donc à l'Institut catholique de Toulouse. Vous vouliez, frère Gilles Denroc, nous donner un aperçu de ce texte. Je le disais avant la pause, le pape François a l'habitude de construire à vous entendre, ces textes toujours avaient un peu la même logique. Là, en l'occurrence, il y a 5 chapitres. Il y aurait donc un cœur et puis 4 chapitres qui se répondent. Qu'est-ce à dire ?
Oui, je préférerais dire dynamique que logique, parce que justement, ce n'est pas un texte hyper intellectuel ou élitiste. C'est un texte justement qui accompagne la vie. Alors, il s'agit de comprendre qu'en Amérique latine, et d'ailleurs la théologie du peuple de Dieu nous vient d'Argentine et de la théologie de la libération, par opposition à la sociologie du peuple, on l'a assez dit, mais il y a les 3 temps que nous connaissions en France avec l'action catholique, le voir, juger, agir, mais qui
alors juste 2 mots, vécu. L'action catholique, c'est donc, ça a été un grand mouvement dans l'Église, il existe toujours, hein, mais qui était très, oui, très important après-guerre, et il avait comme, on va dire, un peu comme mantra,
les 3 temps de la valse,
les 3 temps que sont voir,
juger et agir. Et en Amérique latine, on l'a vécu par faire le constat de ce qui est, de notre actualité, mais avec le regard déjà que le Christ pose. Ce n'est pas un constat sociologique, ce n'est pas un constat économique. C'est un constat qui mêle la vie d'aujourd'hui avec ce que l'Évangile nous appelle à en vivre. Donc c'est mêler un constat et qui n'est pas un voir sans Dieu, mais un voir avec Dieu, si je puis dire. Le jugement, bon, c'est un mot un peu difficile, d'ailleurs en français, on le traduit par l'illumination. Comment l'Évangile éclaire notre vie sur ce thème particulier. Et le 3e temps, c'est effectivement l'action, la transformation du monde par la charité. En gros.
Donc, alors là, qu'est-ce que ça dit de la structure de ce texte ?
Alors, nous avons, donc, il répond profondément à l'attente suscitée par le Concile Vatican II dans Lumen Gentium, Lumière des Nations, chapitre 5, tous appelés à la sainteté. La sainteté, donc, n'est pas une affaire d'élite, mais une affaire du peuple de Dieu. Ce peuple de Dieu définit d'ailleurs dès le premier chapitre de ce texte, Lumen Gentium, Lumière des Nations. Bien, donc il faut approfondir ce don que nous a fait le Concile et l'approfondir dans l'actualité qui est la nôtre, 50 ans après, etc. etc. Donc il y a eu toute... Nous participons à la réception du Concile avec ce texte. Donc la sainteté... Elle apparaît dans le discours programme de Jésus, les béatitudes.
Donc ça, c'est le cœur du texte.
C'est le cœur du
chapitre
texte.
3.
Donc voilà,
à la lumière du maître.
Vers où nous allons.
C'est d'ailleurs un très très beau passage. On s'arrêtera dessus probablement autour du carême, où il reprend chacune des béatitudes et puis derrière, il en donne un commentaire.
Voilà. Et en même temps, il donne la marque qui est la fin des temps, Matthieu 25, c'est-à-dire le jugement dernier que nous avons cité tout à l'heure.
Le grand critère.
Le grand critère. Donc, avec cette lumière de la parole de Dieu, nous pouvons donc éclairer le constat, notre actualité, qui est dit de 2 façons, le chapitre 1er et le chapitre 2e. Le chapitre 1er, c'est justement ce nouveau modèle de la sainteté qui n'est pas un modèle élitiste, mais un modèle dans la vie quotidienne des baptisés, l'Esprit Saint
aujourd'hui. Dont on a parlé tout au long de cette émission,
voilà.
La fameuse classe moyenne de la sainteté.
Voilà. Et ensuite, le chapitre 2e, ça va être justement les obstacles que nous constatons à partir de notre aujourd'hui. Qu'est-ce que la sainteté fausse, une fausse sainteté. Donc nous verrons le néo-gnosticisme, c'est-à-dire un Dieu sans Dieu, un Dieu intellectuel, un Dieu créé par l'intelligence de l'homme, si je puis dire, et le pélagianisme, un Dieu qui, sans Dieu, qui est remplacé par la volonté humaine, par tous les efforts humains de vivre dans une autonomie qui se crée peu à peu contre la volonté de Dieu.
Alors on y reviendra, hein, que les auditeurs ne soient pas effrayés. Donc deux ennemis subtils de la sainteté, ce sera le chapitre 2. On mettra donc un coup de focus sur donc le gnosticisme, enfin c'est ce que fait le pape François, et ce qu'on appelle le pélagianisme. On aura le temps d'expliquer bien ce que c'est.
Voilà, donc les obstacles à la sainteté.
En réponse à ces deux premiers chapitres,
on a l'axe
à la sainteté de la porte
3.
D'à côté, les difficultés.
Voilà, et donc on va avoir le chapitre 4 qui va être justement l'étude de tous ces moyens nouveaux de la sainteté comme l'endurance, la patience, la vie quotidienne, la joie,
l'humour,
etc. Tout ça va nous aider à vivre au quotidien cette sainteté à la fois éminemment traditionnelle et éminemment simple du peuple des baptisés. Et en bon jésuite, si vous voulez, le pape nous donne toujours, dans le dernier chapitre, une idée du discernement. Comment discerner aujourd'hui cette sainteté à l'œuvre et comment chacun et chaque communauté peut discerner la présence du Saint-Esprit pour agir dans cette transformation du monde.
Après cette présentation, ça peut inquiéter peut-être certains auditeurs. Est-ce que vous pouvez redire quelques mots sur la simplicité et l'accessibilité de ce texte, frère Gilles Denroc?
Ah oui, depuis, on l'a dit tout à l'heure, le pape tutoie le lecteur, si je puis dire, ou l'auditeur de Radio Présence. Il nous tutoie, c'est-à-dire il essaye de créer une relation simple, d'accompagnement, de discernement, pour que chacun prenne en compte dans sa vie les possibilités qu'il a devant lui de devenir saint tout au long de sa vie. Et le baptisé est appelé à la sainteté, et en même temps, il ne se trouve plus seul, puisqu'il se trouve concitoyen des saints d'aujourd'hui et des saints d'hier et des saints de toute l'histoire de l'Église. Donc c'est cette espèce d'accompagnement. J'ai cité Bernadette, on pourrait citer Thérèse de Lisieux qui nous accompagne par sa petite voix à découvrir que le Christ nous prend dans ses bras comme un ascenseur et c'est lui qui nous élève. Et c'est cette confiance en l'Esprit Saint qui nous est demandée aujourd'hui. Il est quand même le grand oublié dans l'histoire de l'Église, le Saint-Esprit. Or pourtant, il est Dieu et il est à l'œuvre de façon invisible et il devient visible par nos vies. C'est à nous de rendre visible l'amour de Dieu que l'Esprit-Saint met dans nos cœurs. C'est à nous de le traduire, c'est à nous de l'exprimer. C'est à nous de le faire vivre dans notre monde. Et ceci passe par la simplicité. Ça ne peut pas passer par un élitisme. L'Église n'est jamais une élite de l'humanité. L'Église est présente au milieu de l'humanité. Et je crois que là aussi, il nous faut changer notre vision. Peu à peu, au cours des siècles, on a compris que l'Église n'était pas une société parfaite au-dessus de l'humanité, et conditionnant cette humanité qui devrait arriver à elle dans une vision un peu pyramidale, mais l'Église est Lumen Gentium, lumière des nations, c'est-à-dire une lumière posée au milieu et non pas au-dessus. Et cet au milieu nous demande d'être l'acteur, de porter cette lumière par notre vie quotidienne.
Frère Gilles Denroc, à cette antenne, plusieurs fois j'ai entendu qu'à chaque grande crise de l'histoire, Dieu suscite des saints qui viennent comme répondre à la problématique des temps. J'ai souvenir d'un invité qui avait dit ça, entre autres de Sainte Thérèse de Lisieux, à l'aube du 20e siècle, qui va être un siècle, le siècle des totalitarismes, voilà, où la raison, on va dire, un siècle trop adulte, j'ai envie de dire, la petite Thérèse donnait cette voix de l'enfance qui était comme une réponse à Dieu. Alors est-ce que cette sainteté, on va dire, des classes populaires, sa sainteté de la porte d'à côté, c'est un peu la réponse de Dieu, justement, aux grandes tentations d'aujourd'hui? Qu'est-ce que ça voudrait dire?
Je crois, en tout cas, les grands défis cités au chapitre 2, les grands obstacles à la sainteté, c'est le chapitre 2 de Laudato Si, cette espèce de technostructure scientifique et technique et financière qui impose, d'une certaine manière, son développement au peuple du monde et à l'humanité tout entière. Ce qu'on appelle la mondialisation, etc. Donc, il nous faut travailler à retrouver le sens de la vie par les liens que nous tissons. Le grand défi culturel du XXe siècle, c'était comment retrouver un sens après l'horreur de la guerre et de la Shoah. Et aujourd'hui, c'est comment retrouver du lien alors que le sens est devenu complètement explosé dans une virtualité, dans une intelligence artificielle, dans un conditionnement du monde par la publicité, par le haut, par les élites financières, etc. Et nous, il nous faut retrouver une sainteté par le bas, c'est-à-dire une sainteté dans la vie quotidienne, dans l'exercice de la charité. Je crois que le message est clair. Et c'est ce qui peut nous redonner espérance, parce que devant la massivité de la virtualité, de la mondialisation, c'est un énorme rouleau compresseur, c'est un bulldozer qui traverse le monde et le transforme, et nos vies, et on en est tous là. Et maintenant, il nous faut retrouver, au-delà de ce monde technicien, de ce monde de l'argent, il nous faut retrouver le monde de la relation.
Eh ben merci beaucoup frère Gilles d'Enroc, je finirai par les mots de conclusion de ce chapitre 1 du pape François qui cite Léon Blois comme il l'avait cité lors de sa première intervention après avoir été élu pape, et même si c'était pas la même citation, au fond comme disait Léon Blois, dans la vie il n'y a qu'une tristesse, c'est de ne pas être des saints. Merci beaucoup frère Gilles d'Enroc, et puis rendez-vous est donné le mois prochain avec un autre invité pour parcourir ce beau texte. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Merci.
Merci.
Cette émission est réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.